réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, encore une fois, on va vous dire meilleurs vœux de réussite éducative. Ouais, comme la semaine dernière, hein, on peut jusqu'au 31. Alors, on va vous dire meilleurs vœux à chaque émission. Voilà, on est content d'être avec vous, de repartir pour cette année 2024 avec David. T'es toujours là, toi?
Bah oui, je suis à côté de toi. Tu tournes la tête, tu me vois.
Je sais pas si t'es déjà barré. Parce que deux émissions de suite, réussite éducative, on est assez rare. Non, je plaisante parce
cette
que
année,
cette année, hein, depuis la reprise de septembre, on a réussi à faire à chaque fois deux vies associatives, deux réussites éducatives, et c'est pas mal.
Juste bon. Un petit Covid intermédiaire.
Oh, il y a un petit Covid.
Allez.
Voilà. Les invités qui sont venus, qui sont repartis, penauds, mais ils sont revenus aujourd'hui, comme quoi ils sont pas rancuniers. On en parlera tout à l'heure. Et moi, je démarre l'émission avec mon fauteuil qui descend progressivement. J'ai l'impression de devenir Louis de Funès, tu sais. J'ai pas déjà vécu ça dans une émission.
Si.
Alors là, c'est filmé. Je suis tout petit, voilà Louis de Funès. Alors qu'est-ce que je voulais dire, chers auditeurs, c'est reparti pour la réussite éducative. Vous savez, cette émission, moi j'adore cette émission parce qu'elle alterne l'humour, des sujets profonds, sérieux, et puis voilà, on arrive toujours un petit peu à trouver un équilibre, une harmonie avec un ton léger, et en même temps, de temps en temps, on aborde des sujets très très sérieux. Et n'hésitez pas à retrouver en podcast, d'ailleurs l'émission de la semaine dernière, très très intéressante, hein, avec Jeune et Cité, on avait entendu du rap, des pauses musicales magnifiques. Mais voilà, super, hein. Depuis j'écoute plus du tout la radio ni rien, j'écoute plus de musique, j'ai renoncé à toute forme d'audition. Avant un petit tour de table, il est mort de rire lui, avant un petit tour de table, quelques infos. Comme nous sommes, si vous écoutez cette émission en direct, nous sommes le 17 janvier, le 20 janvier, c'est un bon film ça. Je serai donc le 20 sur scène dans les grands salons pour le Noël des enfants ukrainiens. D'ailleurs, à la demande de mon ami Jean du Rotary Club, que l'on salue, et donc au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, mais également, on va faire un tout petit, juste encore une seule info, parce que pour les autres, vous pouvez réécouter l'émission de la semaine passée en podcast, mais je serai également le 7 février, c'est-à-dire juste avant le prochain direct de réussite éducative, mais j'arriverai à l'heure, t'inquiète, je serai bien sûr en animation dans une maison de retraite, un EHPAD, on dit maintenant, c'est ça, Stanislas. Ouais, près de, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Près de la rue Stanislas. Voilà. Par là-haut. Je vous en reparlerai donc après, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont demandé de venir animer. Et c'est toujours des moments émouvants. On sera à côté des Blues Roses d'ailleurs, parce que vous savez, depuis à peu près une petite dizaine d'années, les Blues Roses interviennent dans quelques EHPAD de Nancy. Voilà. C'est pour ça que j'avais déjà été joué dans la même d'ailleurs, maison de retraite avec les Blues Roses. Là, elles interviennent, je dis elles, mais il y a aussi des garçons, hein, Blues en Rose. J'en ai reçu un juste dans l'émission de Noël. Donc, juste mi-décembre, hein, des blousons roses. Ils sont quelques hommes quand même chez les blousons roses. Et elles interviennent en tout cas là, tous les mercredis dans cette maison de retraite. Et là, en l'occurrence, à leur côté, j'irai animer. Et vous verrez que ce n'est pas sans lien avec la thématique, une des thématiques de cette émission, car vous savez que les émissions de David sont toujours un patchwork de thématiques diverses et variées. Et c'est pour ça que tout de suite, sans transition, on le prouve avec un joli tour de table. Qu'est-ce que tu en penses, David ?
On va faire un joli tour de table et c'est rigolo parce que et on a une personne avec nous qui revient régulièrement avec des thématiques qui sont des fois compliquées pour toi comme la dernière émission et là c'est pareil, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer quand elle va expliquer de quoi elle va parler, ça va être rigolo. Mais oui, faisons effectivement un tour de table, on va avoir plusieurs thématiques, on va beaucoup parler de grands-parents, de papy, de mamie, de comment, de pépé, de je sais pas comment on peut les appeler de différentes manières et puis on va introduire tout ça avec justement.
Avec « Faut pas pousser mémé dans les orties ».
Avec Claire,
avec moi,
Bourdet,
Claire
qui
oui.
revient nous faire une chronique parentalité. Hein, c'est toujours un petit
c'est
peu
ça.
La thématique. Mais voilà, on va être sur cette affaire des grands-parents. Nous avons également autour de la table, ça devient une habitude.
Maëva, stagiaire éducatrice spécialisée au sein du DRE de Maxéville.
Qui pourra nous dire plein de choses sur les grands-parents.
Oui.
Voilà. Nous avons également. Alors j'allais me tourner vers toi, mais non, parce que tu t'as déjà parlé.
Bonjour. Moi, je m'appelle Chamallow.
Oui, calme-toi, Chamallow. Nous avons ici.
Tess Black.
Qui va, au-delà d'intervenir aussi sur le sujet des grands-parents, qui va nous parler aussi à un moment de.
De fanfiction.
Et là, je me tourne sur Chamallow.
Non, mais je sais, parce que quand je suis allé l'accueillir tout à l'heure, elle m'a dit ça, j'ai dit. Non, mais tu nous expliqueras. Je ne sais même pas, je n'ai jamais entendu ce mot. D'accord, mais à chaque fois qu'elle vient. Hein.
Par exemple, tu pourras faire des fanfictions de Victor Hugo.
Des fanfictions.
Après, quand tu sauras ce que c'est.
Ouais, bah après. Hein. D'accord. Et à la gauche de notre test bloc historique, nous avons.
Yara.
Un peu ça historique va. Aussi. Hein.
Un peu historique
ça
aussi.
C'est pas la deuxième fois que tu viens.
Ouais. Faut au moins 4. C'est au moins la quatrième fois.
Ouais.
Ouais, je pense.
Ouais.
Yara qui vit sur Nancy. Et je le précise parce que du coup, on a quand même un truc sympa, c'est que dans l'émission la semaine dernière, on avait Laurine qui est de l'Axou. Et moi, je travaille avec mes collègues des DRE de Nancy et de l'Axou. Très bien. Depuis quelques temps, c'est vraiment super chouette de bosser avec. Enfin, déjà avant, mais là, ça se renforce. Et je suis content de pouvoir accueillir des jeunes aussi qui sont via les autres DRE. Et un petit bonjour à Claudine et Virginie, du DRE de Nancy d'ailleurs, en passant. Et à Laurence, du DRE de l'Axou, pour l'émission précédente, avec qui on a pu se parler à propos de ces échanges que je trouve très intéressants. Et Yara, donc du coup, moi j'aime bien qu'il y en ait là, parce qu'elle a toujours plein de trucs super intéressants à raconter. Donc au début on avait fait effectivement des thématiques précises, et puis finalement je me dis, Yara, en fait elle peut venir parler sur à peu près tous les sujets, parce que c'est une jeune fille super intéressante. Donc voilà, on te fera participer à la discussion aussi sur la place des grands-parents, parce que je pense qu'on a tous des expériences qui sont différentes, qui peuvent être positives, moins positives, un peu de tout souvent mélangé, comme souvent dans la vie, et puis voilà.
Mais d'ailleurs tu m'amènes une idée, bravo.
Non,
on improvise, c'est que tu sais, on reçoit, donc je pense à Tess Black et puis à toi aussi, hein. C'est que vous venez régulièrement effectivement pour des thématiques, mais on devrait multiplier cette idée cette année, qu'on ait des chroniqueurs, ou au moins tu sais, comme une émission d'échange, parce que je trouve qu'ils mériteraient d'être là, même quel que soit le thème.
C'est
mais
ça.
Pour enrichir le thème par leurs propres réflexions, qu'on sait très riches d'ailleurs. Donc,
personnalité à la compétence reconnue.
Oui, non mais c'est vrai. Non mais on en reparlera au rendez-vous.
C'est très bien. Je vais totalement déstabiliser les choses.
Qu'on a dit il y a 5 minutes hors antenne, c'est-à-dire qu'on démarrait par là.
Parce que je me rends compte qu'en fait, ça serait peut-être intéressant qu'on... Ah bah non, oui, excusez-moi.
J'adore les briefings de David.
Non mais c'est une petite question de... Je m'organise tellement bien. Tu vois,
c'est ce qu'on avait dit. Ouais.
On est pas allez, dit que... on va laisser. Oui, on va écouter un petit peu Tess Black nous parler de fanfiction, de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, afin que Chamallow puisse faire des fanfictions des ouvrages de Victor Hugo, pour être précis. Ah. Vas-y, raconte-nous tout.
Donc, on va déjà commencer à expliquer ce que c'est une fanfiction. Donc, une fanfiction, ça se décompose, on va dire, en deux mots, donc fan et fiction. Ce sont donc des histoires inventées par des fans. Ça peut être de tout, quoi. On peut se baser d'un livre, d'un film. D'une musique, des fois. Et souvent, ça, c'est... Je vais aller.
Bon, vas-y, fais ça, il n'y a pas de souci.
Ça peut être souvent donc, des histoires, oui, un peu rajoutées. Beaucoup, je sais que j'en vois beaucoup avec des personnages de films, des histoires inventées entre deux personnages. Souvent, je sais que c'est beaucoup des histoires d'amour qui vont prendre avec tel et tel personnage. Mais ça peut être d'autres histoires inventées dans tout genre.
Mais qui invente ces histoires ?
Des fans,
et
justement,
voilà.
C'est pour ça le mot fan.
On y vient. C'est quoi le support de ces histoires-là, si on parle d'un film par exemple? Est-ce que tu as un exemple concret de film sur qui a généré beaucoup de fanfictions, ou de séries qui ont généré des fanfictions?
J'ai un exemple, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, justement, en thématique. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a beaucoup.
Et quels personnages sont repris? Comment ça fonctionne?
Il y en a un, parce que même moi, je m'y mets un petit peu.
Oui, je sais que t'en as écrit, en fait, si je dis pas de bêtises.
Il y en a une que j'écris en ce moment, parce que j'ai déjà vu d'autres gens sur Internet le faire sous forme de fan art, qui sont des dessins de fans, justement.
Non, mais c'est plutôt clair, je trouve. C'est bien.
Fan art.
Fan art.
C'est quoi, art?
C'est l'art. L'art fait par des fans.
D'accord.
Mais oui.
Ok. D'accord, non, mais c'est bien, je suis perdu là.
Je propose qu'on laisse un grand blanc pour qu'il y ait un vrai malaise qui s'installe. Vas-y, continue.
Donc celle que moi j'ai utilisée, c'est des personnages du Hobbit plus, c'est Tranduil et Bard. Mm-hmm. Tranduil qui est un seigneur elfe très froid, qui a perdu sa femme, qui est le père de Legolas, un des membres de la communauté de l'anneau. Mm-hmm. Et Bard qui est un simple villageois à la base du peuple de Lakeville, qui a fini par tuer donc, le dragon Smaug. Mm-hmm. Dans le livre et dans le film, et qui lui aussi est père avec ses enfants tout court et sa femme morte. Et on voit beaucoup dans le film, c'est ça en fait ce détail, c'est les deux acteurs, ces deux hommes, voilà, normal, ils sont dans une scène ensemble où ils créent un peu des liens, mais pas en se parlant, mais physiquement. Il y a un petit moment qui m'a fait une petite réaction, c'est quand on met pause à un moment, on peut voir donc, l'acteur qui fait Tranduil regarder l'acteur qui fait Bard de façon amoureuse. Mmh. Et ça, à ce moment-là, c'est ça qui a dégénéré une fanfiction.
Qui a dégénéré en fanfiction.
Ah non, mais c'est devenu n'importe quoi.
Alors, mais ce qui m'intéresse là-dedans, du coup, est-ce que justement ça, c'est une interprétation qui est faite par des fans, ou par toi en l'occurrence, si t'écris quelque chose là-dessus, ou est-ce que c'est une interprétation qui est validée par l'œuvre originale, qui laisserait aussi des indices dans ce sens-là?
J'ai fait des recherches justement un peu, et il n'y a aucune preuve qui montre que dans l'œuvre où utilisé par Peter Jackson, le réalisateur, qui veut prouver ce fait-là, en fait.
Donc, si je comprends bien, une fanfiction, c'est le fait de s'emparer un petit peu d'une œuvre, de ses personnages, de certains détails de l'histoire, et puis après, d'en créer une autre histoire.
Oui, un peu.
Ça vient enrichir le récit original, finalement, de ce que je comprends.
Mais là, je suis impressionné. Parce que, du coup, il faut maîtriser l'œuvre, support, pour que ce que toi, tu écris, soit vraiment, disons que les personnages aient vraiment la même personnalité, le même caractère. Disons qu'il faut vraiment connaître bien l'œuvre support, non ? Pour que ça soit en adéquation, que ça ait un lien, que ce soit plausible, non ?
Un peu, oui, c'est vrai que c'est compliqué. J'avais déjà essayé il y a quelques années avec d'autres trucs dans notre univers. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut en fait. Je pense, comme on dit, fan, quand t'es fan, c'est que tu connais vraiment le sujet. Et donc, moi, je sais que c'est. J'ai commencé à l'écrire justement pour ces deux personnages-là il y a 2 mois et quelques, parce que le film donc, en question, je l'ai vu il y a plus d'une vingtaine de fois. Donc, au bout d'un moment, j'ai appris leur caractère et leur façon de parler.
Mais est-ce que moi, quand je t'entends. Alors, j'ai encore pas fini de comprendre exactement ce que c'est, d'accord ? Le concept. Mais si j'ai bien compris, est-ce que. Moi, j'ai une question quand même, du coup. Parce que moi, je n'aime pas du tout des gens, parce qu'on parlait de Victor Hugo. Qui, une fois, il y avait une suite des Misérables, ça s'appelait Le Temps des Illusions, des désillusions d'ailleurs. Et du coup, rien que le fait de savoir que quelqu'un avait fait une suite, ça m'avait horrifié. Parce que quand on est fan, c'est un peu particulier. Mais moi, des fois, il y a des soirs, je parle à Victor Hugo, tu vois. Mais pour de vrai, en plus. Du coup, quand on est fan, on a quand même l'impression parfois que l'œuvre est un peu à nous. Enfin, on ne veut pas qu'on y touche. Alors, moi, je m'interroge, c'est est-ce qu'il y a des fans d'une œuvre? Est-ce que les fans d'une œuvre apprécient les fanfictions faits par d'autres fans? Parce qu'est-ce qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a une trahison, que ça change, non? T'as déjà lu des choses faites par d'autres fans?
Bah, moi, justement, j'ai un avis un peu partagé. Il y en a certaines, je les accepte, donc comme celles que je fais un peu. Mais il y en a que j'ai déjà vues, et c'est souvent que j'ai vu, que j'ai lu, et... Je trouve qu'ils y vont trop loin parce que souvent ils prennent, j'ai déjà vu des exemples, c'est deux frères qui font, qui tombent amoureux et qui font des choses quoi. Donc ça, pour moi, c'est non, j'ai envie de dire, faut respecter un maximum quand même l'œuvre originale et il y en a, ils démontent tout quoi. Et tu te perds, t'arrives plus à retrouver l'univers que tu connais déjà.
Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il faut connaître l'œuvre de support parce que si tu fais parler le personnage, si tu fais du discours direct, comme on dit en narration, eh ben il faut que le. Que ce soit un phrasé, un vocabulaire possible pour ce personnage-là. Il ne faut pas lui changer sa personnalité, son vocabulaire, ça, non ?
Oui, bah c'est, oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est vrai que c'est un travail.
Ouais. Et donc, c'est différent d'une suite, effectivement. C'est, comment on appelle ça ?
Des spin-offs,
un spin-off, oui, merci. C'est, ce que j'ai, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Donc, c'est-à-dire de prendre un élément de l'histoire pour créer une nouvelle histoire. Mais du coup, ce n'est pas une suite à la trame principale.
Oui, là, en l'occurrence, ce n'est pas une suite.
Hein. Oui, parce que moi, pareil, celle que je fais, comme je l'ai dit, l'histoire en question, bah, c'est un secret. C'est un peu un truc partagé entre les femmes. Il y en a, ils disent, oui, ils sont ensemble, les deux personnages-là. Il y en a, ils disent, non, oui. Et moi, je suis du côté qui disent oui, mais je me suis dit... Si c'est oui, mais on n'a pas vraiment la preuve de comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est fait. Donc mon histoire que j'ai commencé à écrire, c'est ça commence dès leur rencontre, dès le premier jour où ils se sont vus, jusqu'au moment où ils tombent amoureux, jusqu'à leur vie éternelle, quoi.
Ouais, t'écris toute l'histoire, ouais.
Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une créativité autour d'une œuvre originale, même si effectivement il y a peut-être des gens qui vont avoir une approche qui dénature un petit peu les personnages, parce qu'en fait c'est pas tant l'histoire, si je comprends bien, que les personnages qui risquent d'être dénaturés. Malgré tout, je trouve que c'est toujours intéressant que des gens se saisissent de quelque chose et décident de l'enrichir, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure finalement. En fait, on l'enrichit. Effectivement, j'imagine que ça doit créer des débats sans fin. Il y a moyen que ce soit très compliqué. Je voulais me poser la question, Zahira, je t'ai vu un peu faire réagir à ça. Toi, quelle expérience t'as des fanfictions?
Moi, je sais que je suis une très grande fan d'anime. Et j'ai un site où je regarde plusieurs chroniques. Et comme Captive d'ailleurs, qui est devenu un livre. C'était une chronique sur un site et maintenant c'est devenu un livre. Et à un moment donné, je sais que je suis tombée sur une chronique où il y avait une histoire qu'en gros, je regarde One Piece. Et je suis tombée sur une chronique où ça me parlait de Luffy, qui est le personnage principal, avec une membre de son équipage. Mais ça n'a aucun rapport, parce que l'auteur, il l'avait dit que ils seront jamais ensemble. Il avait dit que aucun personnage du même équipage que Luffy, ouais, bah, ils seront pas ensemble. Et ça crée des débats et des conflits sur des histoires futiles comme ça. Et moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ouais.
Je parle du fait que si bah, une personne elle trouve que une autre personne va avec elle, bah, si elle a envie de faire une histoire ou de lire une histoire comme ça, bah, elle a le droit.
Ouais, donc plutôt sur une ouverture, en tout cas la capacité à sortir un petit peu, oui, de ce qui a été posé par l'auteur au départ pour, oui, proposer autre chose.
Après, ça dépend après.
Mais oui, ça doit.
Parce que comme elle a dit, je regarde aussi Tokyo Revenger et il y a des personnes qui font des fanfictions sur deux frères jumeaux et c'est très bizarre. C'est très bizarre, ça parle d'inceste, tout ça, c'est très très bizarre.
Ah, et pour le coup, effectivement, ouais. On change carrément de registre, en fait. On est complètement dans autre chose. Ouais. Ah non, je vois un petit peu l'idée. Mais il y a aussi, j'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin par rapport à un jeu vidéo qui s'appelle Dragon Age, une série que j'aime assez bien. Et pareil, il y a des gens qui ont réécrit aussi des choses qui se situent avant le début de l'histoire du jeu pour essayer de raconter comment on en est arrivé finalement à la situation qui se trouve au début du jeu. C'est un jeu qui est extrêmement scénarisé et qui est très bien écrit, donc c'est super riche en termes de scénario. Et du coup, ce bouquin-là, je l'ai trouvé... Alors j'imagine qu'au départ, je ne sais pas si c'est parti effectivement d'une fanfiction au départ qui finalement a été édité et devenu un bouquin, mais finalement le principe reste un petit peu le même. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant pour le coup, parce que ça éclairait complètement et du coup ça me donne envie d'y rejouer, alors que c'est un jeu que j'avais déjà bien épuisé, et ça m'a donné envie de reprendre, tu vois, en me disant quand je vais voir les personnages, quand je vais interpréter un personnage, en fait je me retrouve avec tout un background, comme on dit, donc tout un passé, toute une histoire que j'avais pas en fait quand j'ai joué la première fois, ou en tout cas qui était juste à peine dessinée, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que ça peut être vrai pour un livre ou pour un film aussi.
Non, non, mais c'est chouette, oui, clair.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça amène plein de jeunes à écrire et vers la créativité, l'imagination. Mmh. Et ça, c'est vraiment très positif et très intéressant.
Oui, fondamentalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je trouve... La démarche est vraiment, je trouve, vachement intéressante. Et après, effectivement, bah, comme dans tout, il y a des gens qui vont faire des trucs valables, moins valables, voire un peu chelous, quoi. Mais en tout cas, la démarche au départ, je la trouve intéressante. Mais Eva, toi, t'as un avis sur la question? T'as des expériences?
C'est quelque chose qui est totalement inconnu. Je suis un peu dans la même situation que Chamalo, là, pour une fois.
Bah, c'est-à-dire que l'idée, elle est intéressante, non? Mais Eva,
c'est... Oui, oui, c'est super intéressant. Quand je vous entends parler, moi, c'est un truc que j'écoute et je suis captivée par ce que vous dites. C'est parce que... Mais ouais, non, je...
Après, je suis sceptique parce que Claire, elle a raison. Si ça amène à ça, l'écriture, et ça amène à ça, apparemment, eh ben voilà, moi je le dis, je valide. Hein. Après, si c'est totalement transformé par rapport à si le personnage, si demain on écrit, si j'ai bien compris, donc par exemple, je prends Jean Valjean qui vit une aventure à un moment donné intermédiaire au milieu des misérables, et je lui fais vivre une aventure, etc. Si c'est totalement différent, qu'il n'a pas la même personnalité, que si le but n'est pas de faire quelque chose qui serait totalement réaliste, et qui aurait pu être la vie de ce personnage-là, du coup, je me dis, autant écrire une autre histoire, quoi. Parce que c'est vrai que moi, en tant que fan, je me dirais, bon, alors d'accord, ça n'a rien à voir, ça sert à la personne, elle a écrit, ok, elle s'est amusée, et tant mieux, mais il ne faudrait pas que je me dise que c'est un rapport avec Les Misérables, parce que je crois que ça m'agacerait très, très, très vite de voilà, qu'on ait un sentiment de trahison, vous voyez.
C'est un peu dénaturer le produit, quoi.
Ouais, ouais, voilà. Je me dirais. Alors, par contre, je me dirais, ok, la personne a écrit, c'est beau, c'est artistique. Par contre, si je vois qu'il y a un vrai travail, que j'y retrouve les mêmes mots, qu'il aurait pu avoir ses mimiques. Enfin, mais là, du coup, il faut que ce soit un vrai travail sur l'œuvre initiale, etc. Mais.
Une question là-dessus, dans les fanfictions, est-ce qu'il y a des gens qui vont écrire des choses en se disant. Et si, c'est-à-dire, je reprends ton exemple de Jean Valjean les Misérables, allons-y. Et si Jean Valjean avait eu des super pouvoirs? Et si Jean Valjean avait été un T-Rex? Et si Jean Valjean avait été, tu vois? Et est-ce qu'on trouve ça, en fait, le fait de dire on reprend l'histoire et on s'amuse à changer certains paramètres pour écrire une histoire complètement? Est-ce que c'est une fanfiction ou est-ce que ça en fait partie ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà croisé ça?
Bah, j'en connais moi certaines. Donc Marvel, ils l'ont fait, pas des fans vraiment Marvel, ils se sont dit pourquoi on a fait l'histoire comme ça? Et si, justement, ils disent, et si il se passait telle chose à tel personnage, et ils en ont fait une série, et... Mais donc, comme c'est la production originale, bien sûr, ils ont réussi à reprendre exactement les choses, et tu retrouves le même personnage, le même caractère, dans une autre histoire.
Et je trouve que... D'accord, ouais, c'est encore autre chose.
Donc, c'est pas trop une fanfiction. Donc ça change. Okay,
ouais. Après, je pense que la fanfiction, à la base, c'est que c'est écrit par des fans et pas par des auteurs professionnels qui auraient cette initiative-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que je ne suis
Ton idée de le transformer comme ça me plaît bien. Parce que du coup, c'est affiché que c'est un support qui a donné lieu à une nouvelle forme de créativité. Là, du coup, c'est affiché que c'est pas vouloir respecter avec des petites erreurs. Mais là c'est bien ton idée là, de dire Jean Valjean, il a des super pouvoirs, etc. Parce que je me dis, c'est une nouvelle forme de fiction. Et encore une fois, comme dit Claire, bah, c'est de la créativité. Il vaut mieux faire ça que de passer des journées à manger des cacahuètes en regardant des matchs de foot. Et tout ça. Donc, c'est bien.
C'est un bel exemple, ça. Donc,
non, par contre, j'ai bien aimé ce que tu dis. J'ai pris le premier qui me venait à l'esprit. Je sais pas, c'est un cliché, mais c'est parce que ça me fait peur. Je m'imagine. En train de manger des cacahuètes pour un match de foot, ça me fait peur. Mais du coup, non. Mais j'aime bien ton histoire d'avoir les origines de quelque chose. Moi, j'aimerais bien un jour que quelqu'un écrive un livre sur l'origine du Tetris. Pourquoi, quand on attend une ligne, c'est toujours des pièces en forme de serpent qui tombent et tout. Si je pouvais savoir ça avant de jouer, ça me plairait bien. Non,
bah, écris-le.
Ben voilà,
c'est un défi.
Chamallow fanfiction sur Tetris, ce serait formidable.
Non, mais c'est bien. Par contre, ce qui est dernière question, Tess Black, à chaque fois que tu viens, c'est non seulement une nouvelle thématique, mais ça, ce qui veut dire une nouvelle passion, ce qui veut dire un nouveau centre d'intérêt. Et je te pose la même question que la dernière fois. Et tu vas me dire, elle est pas originale, mais c'est parce que elle s'y prête, cette question-là. Et pour cause, c'est t'arrives à juguler, à trouver un équilibre avec tout ça, parce que t'as une créativité, par contre, un foisonnement d'esprit, et c'est super, mais tu jongles avec tout ça, le théâtre, les jeux vidéo auxquels je ne comprends rien, le Hobbit, etc.
Bah, c'est facile un peu quand même, c'est des passions qui me sont venues chacune différemment avec le temps. Donc, pendant une période, je vais être dans le théâtre, après d'un coup, là, je vais retourner dans mes fanfictions, puis d'un coup, là, je vais retourner peut-être dans mon Hobbit, comme tu dis, et puis vraiment, avoir des périodes, et des fois ça m'arrive de tout mélanger à la fois, de tout faire en une seule fois, des fois dire je vais écrire une histoire pour la transformer en pièce de théâtre qui se passe dans Marvel, voilà, je peux prendre plein d'exemples comme ça.
C'est chouette, mais c'est bien, c'est bien, une grande créativité, c'est super ça, bravo.
Est-ce qu'on n'écouterait pas une fanfiction sur un grand-père? Histoire de lancer la
transition
suivante.
Bravo.
Les œuvres de Barbac.
Si mon grand-père cet enfoiré n'aurait pas connu la guerre, que de mensonges en soirée, de Noël ou d'anniversaire, où mes oreilles épatées écoutaient ce que naguère ce petit père erroné avait connu de misère. Dans ce camion pris d'assaut, les griffures de son dos n'étaient pas venues des bombes, mais des ongles d'une blonde qui était peut-être bien grand-maman, ou la femme d'un adjudant. Elle ne parlait pas l'allemand, mais l'ukrainien, évidemment. Il s'en est pas fait pour l'Alsace, et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine, avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand-père, ce menteur, m'avait mené en bateau, en me disant que la peur lui remontait dans le dos. Lorsque les balles sifflaient et que la mort arrivait, et les grandes dents de Satan pour appeler à chaque instant, il faut rester à l'œil vif et l'ouïe bien concentré, avoir un avis surtout pour ne pas finir dans un trou. C'était plutôt dans son pif que la vodka venait se concentrer. Dans ses plaines pleinement sous, il finissait pas dans le même trou. Il s'en est pas fait pour l'Alsace, et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine, avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand-père, ce minable, n'avait pas la main coupée par le geste admirable de secourir des blessés. Il avait juré sur Satan qu'il protégerait femme et enfant, que sa main aille au diable, qu'il lui serait excusable, qu'il défendrait la patrie au péril de sa vie, qu'il ferait sa carrière chez ses braves militaires. Parlons-en de sa carrière et de sa solde de militaire. 40 francs 70, va votre capinard extasix. Il s'en est pas fait pour l'Alsace, et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine, avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand grand-père, ce salaud. Bah c'était pas mon grand-père, le vrai s'est fait trouer la peau dès le début de la guerre. Il était chef adjudant, l'ex-mari de grand-maman, et ne parlait pas l'allemand, mais l'ukrainien, évidemment. Grand-mère sur son lit d'enterrement ne fit pas trop de prières, ou plutôt pria son argent et ses médailles légendaires. Prit son avenir à deux mains et en bonne samaritaine ramassa le premier chien pour aller s'éclater en Ukraine. Elle s'en est pas fait pour l'Alsace et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, elle s'est fait masser à la chaîne par un poivreau un peu crasse qui, comme elle, fuyait la peine de soldats bien plus dégueulasses. Que de déserteurs en Ukraine.
Dix-sept heures, dix-huit heures, réussite éducative sur RCN.
C'est pas ça en tout cas. Eh ben, chers auditeurs, vous prenez même les conversations en cours hors antenne, c'est rigolo. Vous allez bien, chers auditeurs? Parce qu'en fait, je comprends rien aux pauses musicales de David, donc je me renseigne pendant les pauses.
C'était les ogres de Barbac et non pas les tambours du Bronx.
Ah, c'est ça,
tu pensais.
Oui, voilà. C'est ça.
Mais qui n'ont aucun rapport avec vraiment. Même, je sais pas comment tu y as pensé.
J'ai cru que c'était ça. Ogres de Barbac, ça m'a pensé à des tonneaux qu'on tape dessus.
Des tambours tout court, pas de tonneaux, rien.
D'accord. Bah, j'apprends des trucs.
Hein. Reviens à la raison.
Et tout de suite, eh ben, je pense, David, mais c'est toi qui vas me le dire, parce que comme t'as peut-être encore changé depuis le moment où on a repris l'antenne.
J'ai changé finalement. T'as
changé. Non, maintenant, justement.
J'ai dit que j'ai changé, puis j'ai pas changé.
Ouais, c'est ce qui
comme
me fait
ça,
peur.
Si jamais je suis poursuivi, on me retrouve jamais, tu vois, je hop là.
Parce que je crois que. Elle n'y croyait plus, mais elle est là. Et on n'y croyait plus, et on a un grand plaisir à l'entendre. D'autant plus, je te le dis, Claire, j'ai une amie en ce moment qui réécoute les podcasts des réussites éducatives et des vies associatives. Voilà, c'est une fan. On en a deux ou trois à RCN. Il y a des fans qui réécoutent et qui a bien apprécié tes anciennes chroniques.
Eh ben c'est gentil, ouais. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va apprécier celle qui arrive.
J'en suis sûr.
Bien, écoute.
Alors, faut pas pousser mémé dans les orties. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui pourrait paraître bien éloigné de la petite enfance et pourtant.
C'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. C'était pas trop tôt, et même s'il est tard, maintenant je ne peux pas me sentir plus jolie que quand ce petit gars m'appelle mamie.
Ils sont 15 millions en France, on les appelle granny, grandpa ou bien encore mamie, papy. Comment ne pas dédier une chronique aux grands-parents ? S'ils sont plus âgés qu'auparavant, les grands-parents sont aussi plus actifs et s'impliquent dans la vie de leurs petits-enfants. Ils ont un regard admiratif sur leurs enfants devenus à leur tour parents. La grande majorité s'accorde à dire que ce n'est pas la promesse d'un coup de vieux, mais bel et bien un réel rajeunissement. Cela après le départ du nid de leurs propres enfants. La tribu s'agrandit et ils découvrent un nouveau rôle. Mais quel est-il vraiment ? Bien évidemment, c'est tout d'abord avec ses parents que le bébé vit ses premiers attachements. Mais il est toujours rassurant de savoir qu'il existe d'autres personnes sur qui compter en dehors de son papa et sa maman. Les grands-parents sont un point d'ancrage, un repère pour le petit marmot qui vient de pointer le bout de son nez. Cette relation de confiance présente un atout majeur dans le développement et l'épanouissement de l'enfant. Elle va lui permettre de grandir de manière harmonieuse. Papy et mamie répondent présents pour prendre le relais des parents embarqués dans le tumulte du travail et du quotidien. Ils proposent un accueil différent, peut-être un peu moins rythmé, un rythme moins effréné. Ils sont une oreille bienveillante, ils apportent une présence, un soutien émotionnel précieux. Le lien intergénérationnel se crée dans la toute petite enfance, c'est le temps de la tendresse et des câlins. Ils assument aussi une certaine responsabilité éducative, ne serait-ce que par le respect des règles de la vie en société. Mais sans aller à l'encontre des valeurs parentales, les exigences sont différentes. Grand-ma et grand-pa gardent leur chère tête blonde le mercredi après l'école ou pour la nuit. Ils sont toujours prêts à partager du temps pour un jeu, du jardinage, du bricolage, pour lire un conte, raconter une histoire, ou bien encore cuisiner, apprendre une recette, celle qui restera telle une madeleine de Proust.
Ils ont surtout un rôle de mémoire, de transmission d'expérience. Les grands-parents apportent un sentiment d'enracinement. Au-delà d'un rêve, d'une passion, les aïeuls transmettent des valeurs. Ils sont les témoins du passé, les garants de l'histoire familiale, les raconteurs de la petite histoire dans la grande. Ils sont le lien entre le passé et le présent pour préparer l'avenir. Mais tout n'est pas toujours aussi simple. Chacun doit trouver sa juste place. Pour cela, il est primordial que le couple accepte de laisser assez d'espace afin que le lien puisse se créer entre les deux générations. Pour autant, il s'agit de trouver le juste milieu entre être trop présent, voire étouffant, et être trop distant dans la vie des petits-enfants. Le sociologue Serge Guérin distingue trois comportements à l'annonce de la grossesse ou à la naissance. Il y a tout d'abord ceux pour qui le rôle de grand-père ou de grand-mère devient prépondérant. Ils vont énormément s'investir auprès de l'enfant. Il identifie aussi la catégorie des grands-parents qui accueillent avec joie la nouvelle tout en posant des limites. Il précise d'emblée qu'ils ne garderont pas le bébé trop souvent. Pour eux, il n'est pas question de bousculer leur emploi du temps, hors de question d'être une nounou. Enfin, Serge Guérin explique que certaines personnes, heureusement moins nombreuses, sont réellement déstabilisées. Cet état d'esprit est souvent lié à la peur du vieillissement et à la représentation qu'elles ont de leurs propres aïeuls. On ne peut oublier les familles qui sont éloignées par la distance géographique. Il faut alors créer du lien grâce à la communication par des moyens technologiques. L'éloignement physique n'est pas toujours l'unique justification d'un manque de relation. Une discorde, un manque de confiance conduisent quelquefois des jeunes parents à refuser de confier leur progéniture à papy et mamie. Écartés de la famille, ils se débattent alors pour trouver leur place dans le cœur des plus jeunes, parfois même en faisant appel à la justice. Il est vrai que l'arrivée d'un bébé bouscule la vie de la famille et les relations. Et parce que la société évolue, parce que les courants éducatifs sont différents, les anciens sont perdus par rapport à tous ces changements. Un temps d'adaptation est nécessaire pour que tout le monde puisse s'ajuster. Et avoir la chance de grandir en étant proche de ses grands-parents est une véritable opportunité pour l'enfant. L'effet est tout aussi positif dans l'autre sens. Quel bonheur pour Nono et Nona de voir bébé sourire, rire, grandir. Chacun se crée des souvenirs, ceux qui marquent à jamais. Ces moments sont importants parce que...
Ah non, je les vois plus, ils sont toujours sur le boîte vocale. Depuis qu'il y a ces portables, cette famille, on dirait une cassette. Ils ont toujours le même message qui dit « Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, laissez un message, on vous rappellera. » Et moi je laisse toujours le même message pour qu'ils n'oublient pas. Je dis « Allô, c'est votre père, vous n'êtes pas là pour le moment, mais moi je suis là. Enfin, pour le moment. »
Allez, on finit avec un peu d'humour, celui de Groucho Marx. « Être grand-père ne m'ennuie pas du tout, ce qui m'ennuie c'est d'être marié à une grand-mère. »
J'avais jamais entendu ça.
Ouais, il a toujours des belles formules. Hein. Oh, mais tu m'as. C'était beau le dernier truc qu'on a entendu là aussi. Ça m'a tout ému.
Gad Elmaleh.
Ouais. Mm. C'était joli.
Oui, oui, oui.
Pour le moment. Ouais. Alors, chers auditeurs, vous allez poursuivre la chronique de Claire qui est magnifique, qui, comme d'habitude, nous laisse un petit moment d'émotion après. C'est toujours dur de reprendre parce que c'est toujours super bien écrit. Et... c'est toujours merci. Joli. Mais vous allez poursuivre cette chronique en achetant tout de suite demain. Voilà, ça lui fera un peu de sous au pauvre. Non, il n'existe plus le pauvre. Vous allez acheter L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Et c'est vraiment un recueil de poèmes, mais magnifique. Tu connais Claire ?
Non, je ne connais
pas.
Bah,
je te ramènerai.
Merci.
Je te ramènerai, d'accord ?
Merci. D'autant plus que je me permets de dédier cette chronique à mon petit Arsène.
Ah ouais ? Bien entendu.
Et ah ouais. Voilà, qui est arrivé vendredi dernier.
Ah, ah parce que. Ah ouais ?
Oui, oui.
Ah, parce que.
Oui.
D'accord. Ah oui ?
Voilà, je suis grand-mère, je suis Moon depuis vendredi.
Ah ouais, mais il faut le dire là-bas.
Et ben voilà, c'est
mon
pour ça que je me permets.
Tout frais.
Ah ouais. Voilà.
Tu transmettras nos félicitations.
Avec joie.
Ah ouais, mais ah ouais, je suis tout ému là, c'est chouette. Ouais, on annonce des trucs à la radio, il y a des scoops sur RCN et c'est génial. Ah ouais, c'est... Non mais tu as raison, tu m'as fait penser à un vers de Hugo quand tu dis, c'est bien le lien. Hein, parce que, comment il disait déjà, qui a le passé pour racine, qui a le passé pour racine, a pour feuillage l'avenir. Et c'est vrai que c'est important, je pense, pour faire grandir l'enfant, que de ce lien comme ça, avec ceux qui nous ont précédés, de qui cette capacité de transmission, etc. Non, c'est chouette.
Ça me fait penser au proverbe juif, on ne peut laisser que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes.
Oh là 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 là. C'est une émission Lucchini, là. On va balancer 50 000 citations dans le...
Des références dans tous les sens.
Non, mais bravo, bravo Claire. À chaque fois, c'est chouette. Tu vois que c'est...
Merci.
C'est pour ça que je te disais, il y a des gens qui réécoutent les émissions pour tes chroniques, mais c'est vrai. Il faudrait peut-être faire une compile à un moment donné. On va essayer de faire ça. Ça serait bien d'aller les chercher dans tous les podcasts. C'est Jean-Luc qui va faire ça. Et on devrait comme ça les mettre ensemble. Non, ouais. Faudrait que tu y penses. Ouais. Ou alors, comme tu les écris et tout.
Oui.
Tu sais, de faire un petit feuillet et tout. Non, parce que c'est vraiment chouette. Merci.
Merci.
Et donc là, on poursuit donc, je dis aux auditeurs, le débat. Maintenant qu'on a un petit peu réussi à revenir de nos émotions, on va poursuivre hein, sur cette thématique, c'est ça là ?
Bah oui, je laisserai un petit peu dans le cadre de la conversation chacune voir un peu quel degré d'intimité aussi souhaite livrer, évidemment. Mais moi, ma question, bien entendu, c'est... j'ai vu en particulier Maëva, toi qui approuvais, qui hochait de la tête pendant la chronique, de vos propres relations avec vos grands-parents, de ce que ça a pu vous apporter. Voilà, dans... Comme le disait aussi Claire, voilà, avec des grands-parents qui peuvent être très présents, trop présents, absents, pour plein de raisons. Enfin voilà, les histoires des familles sont nombreuses, variées et uniques. Donc voilà, Maëva, tu aurais quelques mots à dire sur ce sujet ?
Bah, s'il fallait, je pourrais dire plein de trucs. Mais,
dis plein de trucs.
Moi, je sais que j'ai été très proche de ma grand-mère maternelle de tout son vivant. Et ouais, tu parles d'éloignement géographique et ça, je l'ai vécu parce que bah, moi, vivant près de Nancy et mes grands-parents vivaient près de Saint-Dizier, c'était toujours compliqué de se voir. On se voyait pour les fêtes ou comme ça. Enfin, sauf quand j'étais petite, là, ma grand-mère... c'est une anecdote que ma mère m'a toujours racontée parce que... Ma grand-mère avait 45 ans quand je suis arrivée. Je suis la première petite fille d'un bon nombre de petits-enfants. Et ma grand-mère, elle n'a jamais trop accepté le fait d'être mamie parce qu'elle était encore un peu jeune. Donc elle, apparemment, de ce que ma mère me raconte, quand je suis arrivée, elle me regardait, elle disait « Dis bonjour à maman !» Et donc voilà. Mais je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'on a toujours été très proches. Mais ouais, moi, pour moi, mes grands-parents, c'est vraiment... je dirais, c'est comme mes parents, quoi. Encore, c'est... Là, pour Noël, on a fait tous Noël chez mon grand-père. Et pour moi, il fallait que... Enfin, comme avant, quand ma grand-mère était encore là, on allait tous en vacances avant Noël. Là, moi, je suis montée le 23 chez mon grand-père. On a préparé Noël. Et puis, ouais, c'était une façon de se remémorer quelques souvenirs.
Et quand tu parles d'éloignement géographique, pour le coup, comment la relation a pu se construire malgré cet éloignement géographique? Elle reposait sur quoi?
Ma grand-mère était... tous les jours, il fallait que ma mère et ma grand-mère s'appellent. Enfin, et donc, quand on était dans les parages, fallait obligatoirement qu'on suive au téléphone. Même en dehors de ça, on s'appelait, on faisait les téléphones comme ça, ça n'existait pas. On faisait pas de FaceTime comme maintenant, donc on s'appelait sur l'ordinateur en vidéo et on se voyait souvent comme ça.
Il y a d'autres expériences, Tess Black, Yara, par rapport aux grands-parents? Allez-y, faites-vous plaisir. Tess Black ?
Moi, avec mes grands-parents, c'est vrai que je ne les ai pas du tout connus quasiment. Du côté de mon père, ils sont partis bien avant ma naissance. Comme du côté de ma mère, j'ai son père il y a très très longtemps. Donc il me reste plus qu'une mamie. Et c'est vrai qu'on a toujours été proches. On se voyait assez souvent parce que moi, j'habite donc sur Maxéville et elle sur Vendeuvre. Donc on avait la facilité de se voir. Mais depuis un certain temps... pour des raisons un peu privées, on s'est un peu séparés d'elle, toujours en la voyant, mais moins souvent.
D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec ses grands-parents, en fait, ou avec sa grand-mère ou son grand-père? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On parle, on joue, on fait de la cuisine, qu'est-ce qu'on fait?
Quand je vais chez elle, souvent j'y vais soit avec mes sœurs ou toute seule, et je viens passer le week-end ou une semaine chez elle, et elle aime bien elle me faire sortir, me faire des balades tout le temps, pour me faire découvrir la végétation, les animaux qu'il peut y avoir dans les forêts, dans les parcs. Elle me fait souvent visiter plein d'endroits comme ça.
Et on revient vraiment sur la transmission, là. On est vraiment là-dessus. Et toi, Yara, par rapport aux grands-parents?
Moi, j'ai toujours été très proche de mes grands-parents. D'ailleurs, quand je suis née, en fait, ma mère, c'est l'aînée d'une fratrie de 9 frères et sœurs. Et moi, je suis l'aînée de tous mes cousins et mes frères et sœurs. Et quand je suis née, ma mère et ma grand-mère, en fait, elles étaient toutes les deux enceintes. Donc j'ai un oncle qui a mon âge Et on ne m'a pas élevée de manière à ce que je sois la petite fille de ma grand-mère ou la nièce de mes oncles. J'étais plus la sœur de mes oncles et la fille de ma grand-mère qu'une petite fille. Et ça a été très compliqué parce que je vivais avec ma mère et mes petits frères chez ma grand-mère. Ça a été compliqué au début parce que on a toujours vécu ensemble. Et à l'âge de 4 ans, on a déménagé de Épinay. Et on est parti à Nancy. Mais on a toujours été très proches, malgré que on se dit, ma famille se dispute souvent. Mais ma grand-mère maternelle, non, on a toujours été très proches. Et malgré qu'elle soit. Ça m'attriste un peu parce qu'elle est un peu malade, elle est dialysée. Mais voilà, ça m'attriste, mais j'ai toujours eu une bonne relation. Et mon grand-père aussi, il était très drôle. Il est très drôle.
Qu'est-ce qui te transmettent, qu'est-ce qui t'ont transmis tes grands-parents?
La culture, la religion, l'éducation aussi. Je sais que moi et ma mère, on se dispute beaucoup parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées. Et ma grand-mère, elle a toujours dit oui, faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, faut que tu continues comme ça. Elle me poussait en fait de l'avant. Et ça a toujours été quelqu'un qui soutenait les autres, en fait. Simplement par rapport à son vécu, par rapport à son histoire. Ça a toujours été une très bonne personne.
Vous connaissez les autres, l'histoire de la jeunesse de vos grands-parents?
Oui.
Ça a un sens pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ou toi, Lana, est-ce que tu connais...
On va couper au montage.
Désolé, je ne suis pas censé. Est-ce que tu connais toi aussi l'histoire de la jeunesse de tes grands-parents, ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse?
Non.
Pas spécialement.
Ils ne disent rien.
Ils ne parlent pas de ça?
Non, mais mes parents, ils n'aiment pas, je ne sais pas, ils ne veulent pas me dire.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui ne se transmet pas pour le coup, cette histoire-là?
Non.
En tout cas, pas encore. Peut-être un jour.
Peut-être plus tard. Mes sœurs, je sais qu'elles aussi, elles ont su un peu le passé de mes grands-parents adultes, donc plus tard, moi aussi.
Et Maëva, je fais attention maintenant avant de dire. Non mais je fais attention avant de dire un prénom parce que.
Moi je sais que ma grand-mère, je sais plus si c'est, enfin c'est pas la première mais elle est au milieu de sa fratrie et elle a beaucoup été élevée par sa grand-mère. Donc d'ailleurs quand elle est décédée, mes parents et les frères et sœurs de mes parents, enfin de ma mère, ils ont décidé d'enterrer ma grand-mère dans le même cimetière que sa grand-mère à elle parce que. De par ce petit geste, parce que c'est elle qui l'a beaucoup élevé. Mais, enfin, je dis que je connais des choses de sa jeunesse, mais, enfin, j'en connais pas plus que ça. Enfin, à part qu'elle a des origines italiennes et que, enfin, elle allait beaucoup, certainement, en Italie avec son père et tout ça. Enfin, voilà. Après, tout, il y a beaucoup de choses qui. Beaucoup de non-dits dans la famille par rapport à ma grand-mère. Donc, enfin, je sais, mais j'en parlerai pas. Mais... Mmh. Donc voilà.
C'est la question des non-dits aussi, de ce qui se. On voit juste avant cette blague ce que tu disais aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois aussi une coupure dans la transmission et des choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites tardivement. Ou des fois même effectivement sur la fin de vie. Enfin, je sais pas si des gens ici l'ont expérimenté. Moi, ça a été clairement le cas. Ma grand-mère est restée quasiment 2 ans hospitalisée et j'allais la voir plusieurs fois par semaine, même si je pouvais, parce que j'avais aussi un lien très fort avec ma grand-mère maternelle et surtout sur la fin de sa vie. Et elle m'a raconté une quantité de choses phénoménales qui n'étaient pas spécialement cachées, mais juste qu'elle avait juste jamais raconté, parce que peut-être elle se disait elle-même que c'était pas très intéressant. Mais bon, moi je trouve que c'était très intéressant. Et cette idée de transmettre quand on sent que on va partir en fait, et que l'histoire elle reste et que ça se perde pas en fait. Et ouais, j'ai trouvé que c'était assez fondamental en fait. Il me semble.
Ouais, moi j'ai pas forcément pu connaître ça parce que moi c'est ma grand-mère qui a décidé de partir avant de partir de son âge. Mais ça je regrette justement parce que je pense que elle n'en aurait pas décidé dans ce sens, j'aurais pu savoir plus de choses à son propos.
il y a, je rebondis, je suis désolé, mais la thématique est vraiment intéressante, et puis il y a plein de choses intéressantes qui se disent de ton côté, Tess Black. Toi, le fait que tu aies justement peu de transmission par rapport à l'histoire de ta grand-mère, là en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose qui te manque, justement, comme disait Maëva juste avant, ou c'est quelque chose qui finalement n'est pas forcément nécessaire pour toi?
Bah justement, comme je sais que ces choses, que le passé de ma grand-mère, je saurai plus tard, ça me donne une petite curiosité de me dire « Ah bah, je vais attendre, je vais essayer peut-être, avec le temps, comme elle me parle quand même, ma grand-mère, elle me dit des choses, de décortiquer pour peut-être savoir petit à petit les choses jusqu'au jour où je serai tout.
» Quand on était sur la transmission des anciens vers les jeunes, est-ce que vous leur apportez des choses aussi à vos grands-parents? Est-ce que vous pensez leur apporter quelque chose? Et si oui, quoi?
Moi, je parle, enfin, par rapport à la technologie, c'est ça, c'est un truc. Bah, mon grand-père est assez high-tech. Enfin, il a un téléphone, même, enfin, pas de la même, pas le même que toi, Chamallow.
Il a un smartphone. Vidéo,
il a un des Samsung dernier cri. Mais en dehors d'avoir le dernier téléphone de sa marque, enfin, il sait pas plus que ça l'utiliser, quoi. Donc, il faut un peu lui faire des tutos et tout ça. Mais moi, je trouve ça drôle. Enfin, il veut être à la mode en ayant le téléphone dernier cri, mais il sait pas forcément l'utiliser. Donc, je trouve ça drôle.
Et il le prend bien quand tu lui expliques?
Ouais, parce que c'est souvent lui qui vient vers nous en disant « Regarde voir, j'ai ça, j'arrive pas. » Oui, bah, achète un téléphone plus adapté, peut-être que ça pourra te rendre service. Mais du coup, non, je trouve ça drôle. Ouais, la technologie. Après, beaucoup de trucs dans le rap. Je sais qu'on se transmet beaucoup. Enfin, mon grand-père m'a beaucoup transmis tout ce qui est culture musicale, les films et tout ça. Alors moi, quand je le fais écouter les musiques de maintenant, enfin... Voilà quoi.
Petit regard.
Petite dédicace à Chamallow. Ouais, non, je pense qu'il a les oreilles qui sifflent et il nous le fait comprendre. Mais c'est trop drôle. On fait exprès du coup avec mes cousins dès qu'on arrive chez lui. C'est incroyable. On met des musiques.
Mais c'est très beau ce que tu dis. Et je mettrai juste un petit bémol. C'est bien que toi, justement, tu l'amènes vers le aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie, etc., puisque tu vis et la vision du monde d'aujourd'hui, etc. Donc je pense très enrichissant aussi pour nos grands-parents respectifs, parce que je pense que leurs petits-enfants sont justement la possibilité pour eux d'avoir une fenêtre ouverte sur le maintenant, quoi. Et inversement, je me souviens surtout quand on est ado, le fait d'aller les voir et que eux, alors souvent quand on est ado, on soupire, ou c'est pour ça que le sketch de Gad Elmaleh m'a beaucoup touché, parce que je pense à cette période où on s'occupe pas trop de nos parents et on va pas trop voir nos grands-parents. Et je pense qu'après cette phase d'adolescence, on le fait pas volontairement, hein, c'est parfois même déjà avec nos parents, hein, je pense à la chanson de Daniel Guichard, dans Mon Vieux, etc. Mais encore plus avec nos grands-parents. Et quand il arrive ce moment où on a dépassé ce stade de, où on s'occupe un peu que de soi, de l'adolescence et de toutes nos problématiques et de nos révoltes, etc., et qu'on se dit, le fameux « il est trop tard » camusien, là, c'est toujours un peu bouleversant. Mmh. C'est pour ça que ça m'a touché. Mmh. Mais du coup, je pense qu'ils nous emmènent nous balader alors que nous, on a envie de faire un tour en mobylette ou d'aller voir les copains. Puis on nous a dit qu'il fallait aller les voir là. Mine de rien, ce qu'ils nous donnent là, qui ne correspond peut-être pas à nos technologies modernes, à notre vision du monde, tout ça, plus tard, on se dit, eh ben, ça nous a enrichis.
Ouais.
Et ça nous manque. Et mine de rien, ce truc-là où on y allait un peu en soupirant, qu'est-ce que j'aimerais bien le revivre. Donc nous, c'est une fenêtre ouverte sur le maintenant, mais eux, c'est une fenêtre ouverte aussi parce que c'est bien la technologie, mais sans faire le vieux bip. Peut-être qu'eux, ils nous aident aussi à relativiser ce qu'on croit être super fondamental maintenant, et qu'il n'est peut-être pas tant que ça, etc. Et il y a des valeurs comme ça, indirectes. Mais il y a une autre réflexion, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne parlais pas, parce que vous me faites penser aussi à ma mamie qui n'est plus là, et mamie Rose. Et, moi, et alors, ce qui est bizarre, c'est que dans tout ce que vous dites, moi, je me dis, je n'ai aucune transcendance, voilà. Mais je l'ai déjà dit dans l'émission de la semaine dernière à propos de mon service athée, mais je n'ai aucune transcendance, mais il m'arrive très souvent de me demander quand j'agis qu'est-ce qu'elle aurait pensé, ma fameuse mamie Rose. Comme quoi, c'est quand même des liens qui sont assez forts. Et la seule réflexion, et peut-être que Claire aussi donnera son avis là-dessus, c'est que je me dis que c'est... Il y a deux réflexions qui en vous écoutant. C'est un, c'est vrai que c'est... Les mamies, on a une image d'Épinal. Et on pense à la mamie de la Boum, hein, on aurait tous voulu avoir la mamie de la Boum. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est quand même une image un peu stéréotypée, cliché, mais qui renvoie quand même à une posture dont on parlera tout à l'heure, le rôle de... Voilà, moi que j'ai présenté Adèle à sa mère, parce que c'est aussi révélateur, hein, de Tess Black le disait, voilà, on l'a tous un peu évoqué, c'est que aussi le rapport avec les grands-parents, c'est aussi révélateur des conflits familiaux ou des tensions. Très souvent, hein, les enfants sont un peu victimes de ça. Souvent, on les voit pas, on fait longtemps qu'on les a pas vus parce que ils sont comme ça, les enfants et les grands-parents, les deux extrémités souvent d'un circuit qui est parfois conflictuel, etc., etc. Moi, Adèle avait 6 ans quand je l'ai présentée à sa mamie, et quand on est revenu, elle m'a dit, elle était très contente, hein, et elle m'a dit, je veux plus y aller. Je dis pourquoi? Elle me dit, elle est pas assez vieille. Et ça m'a amené une réflexion sur les images des grands-parents stéréotypés dans les livres, etc., etc. Hein, quand tu parlais 45 ans, quand tu es né, toi, Maëva, pour ta grand-mère, etc. Donc il y a cette réflexion-là qui m'a amené, sur lesquelles on peut débattre aussi, c'est-à-dire sur les représentations qu'on a, etc. Et c'est le rôle, si t'en parlais clair. C'est pas facile pour les grands-parents, c'est de se positionner. T'as parlé du positionnement à un moment donné, ceux qui disaient je serais pas une nounou, etc. C'est pas évident parce qu'il y a la vision qu'ont les grands-parents quand l'enfant arrive et qu'ils deviennent grands-parents, de quel est leur rôle. Le rôle qu'ils ont envie, eux, de jouer ou pas, etc. Et puis, les parents, le rôle qu'ils vont accepter, etc. Enfin, c'est complexe. Je trouve que ça ne doit pas être facile d'arriver à trouver sa place voilà, par rapport aussi à nos enfants. C'est pas facile, non, Claire, hein, tu as un peu abordé ça dans ta chronique. Mais c'est vrai que ça, c'est complexe quand même dans une famille.
Ah, c'est très, très complexe. Mmh. Et puis, je pense que justement, c'est le moment où les petites rivalités peuvent ressortir et les animosités font que ben, les grands-parents ne peuvent pas toujours voir les enfants. Ou alors, parfois... Ça peut engendrer des conflits même ouverts devant les petits-enfants, ce qui n'est pas toujours très positif. Mais je pense qu'avec le temps, chacun arrive à trouver sa place. Du moins, je l'espère, hein, je vais en faire l'expérience. Mais moi, j'ai beaucoup été élevée par mes grands-mères, donc c'est vrai que je ne serais pas ce que je suis sans elles. J'en ai une qui m'a beaucoup appris le jeu, à jouer, à aller au théâtre, enfin la culture, une autre qui m'a beaucoup maternée. Donc ben, je crois que je suis ce que je suis parce que j'ai eu ces grands-mères-là. Et puis je pense aussi qu'elles m'ont transmis des choses, des choses conscientes, ben des recettes, enfin des choses factuelles, mais il y a énormément de transmissions inconscientes. Et je pense qu'on est aussi ce qu'on est inconsciemment. En fait, on porte aussi dans la génétique et dans nos comportements ce que nos grands-parents nous ont apporté. Et c'est pas toujours conscient. Et notamment, on parlait tout à l'heure des choses qui ne se disent pas, mais même dans les secrets de famille, il y a des choses qui se sentent sans être verbalisées, ça se sent. Et puis finalement, le jour où ça éclate, bah oui, évidemment.
Mmh. Ouais.
Évidemment.
Bon. Voilà.
C'est beau, hein. Des blancs très profonds.
Je vais nous amener vers la conclusion. J'aurais voulu passer, on n'aura pas tout à fait le temps, mais je pense qu'on lancera le début, une chanson que je trouve magnifique en conclusion. Et un petit coup d'égo, de truc égocentrique, mais aussi en hommage à ma propre grand-mère maternelle, qui a commencé sa vie comme couturière, qui a fini complètement dans autre chose, et voilà, que j'ai découverte que sur le tard, dans ses aspects positifs, on va dire, et ça c'est chouette. C'est le côté, on a connu quelqu'un et c'était pas forcément facile. Et puis en fait, sur la fin, on se découvre. Et c'est chouette. Voilà. On peut remercier tout le monde et lancer peut-être la chanson qu'on n'entendra peut-être pas en entier. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions.
Merci.
C'était super chouette. Je pense qu'on vous réinvite. Enfin, je suis sûr qu'on vous réinvitera aussi sur d'autres thématiques parce que vraiment, vous apportez quelque chose d'intéressant et de très humain. Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Ma grand-mère qui était de Clamcy, elle a clamsé dans son petit lit. À l'hôpital de Montargis, elle est partie rejoindre son homme. Celui qu'elle appelait son chéri, un matin de cet hiver pourri. Un matin de cet hiver pourri. Ma grand-mère qui était de Clamcy, c'était une qui chantait tout le temps. Au temps de son jeune temps, à 20 ans, faut dire qu'elle était couturière. Et que dans les ateliers de misère, on se serait cru dans une volière. on se serait cru dans une volière. Dans les quartiers des ateliers de couturières, fallait voir comme la dernière était sapée comme une rentière. On sait pas comment qu'elle faisait pour être mise comme des princesses, pour être mise comme des princesses. Quand ça sortait des ateliers, après 10-11 heures de travail, les rues s'emplissaient de beauté, les chapotières, les culottières, les grisettes et les trottins, les petites mains et les premières, les petites mains et les premières. Sous leurs belles robes et leurs faux culs, sous leurs jabots, leurs redingotes, sous leurs chignons comme des châteaux, sous leurs froufrous à quatre sous, y avait leur chair de jeunesse déjà marquée par la galère, déjà marquée par la galère. L'élégance de la ville lumière, c'est pas les riches qui l'ont faite. D'ailleurs, les riches, c'est bien connu, ça s'amène avec son pognon. D'un geste rond, ça sort ses ronds, ça paie la sueur et les douzeurs. Ça paie la sueur et les douzeurs.